scène, votre magazine de musique urbaine. Une vitrine de la scène musicale urbaine sur Radio Okapi. Tout le jeudi et vendredi à 15h30. Le samedi à 20h05. Et le dimanche à 12h10, heure de Kinshasa. Avec DJ Daddy.
Bien, encore une fois, bienvenue dans cette émission au Capi Service qui s'intéresse aux effets du changement climatique. Vous savez, en RDC, les forêts autour des grandes agglomérations sont fortement menacées des disparitions. C'est là à cause de la demande élevée en bois de chauffe. Cette pression des populations sur la forêt est l'une des causes du changement climatique. L'activité humaine dans l'ensemble est à la base des perturbations climatiques dont les conséquences se font déjà sentir. On note l'assèchement des cours d'eau, la disparition de certaines espèces animales et végétales, l'avancée des érosions, les inondations, les activités agricoles ne donnent plus, le rendement agricole a fortement baissé, donc on n'arrive plus, c'est plus comme avant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les communautés à s'adapter aux effets des changements climatiques? Quelles sont les activités alternatives que l'on peut proposer aux communautés par rapport à dans ce contexte des changements climatiques? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec l'ingénieur Idriss Moufouka, qui est coordonnateur du forum sur les changements climatiques qui se tiendra prochainement à Kikwit. Encore une fois, ingénieur Idriss Moufouka, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous parlons des changements climatiques. La première question est de savoir qu'est-ce qui est à la base, quelles sont les autres raisons qui sont à la base des changements climatiques que nous déplorons aujourd'hui.
Alors, il faut dire que l'auteur principal du changement climatique, c'est l'être humain qui est arrivé à créer ce qu'on appelle les mondes machines. Et l'être humain voulait augmenter sa production dans tous les domaines. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a augmenté les taux de concentration des gaz COD et les gaz à effet de serre qui polluent l'environnement. Et donc, c'est l'être humain, c'est l'homme qui est le responsable de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Mmh. Alors, aujourd'hui, quels sont les effets que nous déplorons? C'est vrai que j'ai déjà cité quelques effets. Y en a-t-il d'autres?
Non, je crois que vous avez tout cité. Il y a l'augmentation de la température, on a des érosions par-ci, par-là.
Des fortes chaleurs, c'est comme dernièrement à Kinshasa, on en a souffert.
Ce qui fait qu'on a une forte perturbation de l'écosystème. Et donc, il faut agir maintenant parce que nous sommes en train de tout perdre si on ne fait pas attention dans les jours à venir.
Mmh. Alors, en quoi est-ce que la pression exercée sur la forêt, par exemple, influe sur le climat?
Alors, il faut dire que la forêt a une grande importance dans l'existence ou dans la stabilisation de l'écosystème. On voyait par exemple le principe de la photosynthèse. Si aujourd'hui on respire, on a de l'oxygène purifié, c'est grâce aux arbres, c'est grâce à la forêt. Et donc aujourd'hui, l'exploitation illégale ou l'exploitation abusive des forêts est à la base de beaucoup de maladies, est à la base de beaucoup de problèmes que nous avons. Ce qui fait que la finalité, on a des pluies qui a bas par-ci par-là, et puis on a des cas d'érosion, on a ce qui nous amène également à la disparition de certaines espèces d'animaux, ce qui n'est pas normal. Et donc l'être humain est à la base de tout ce que nous vivons aujourd'hui, et donc il est important que nous puissions agir, mais avec des solutions qui sont adaptées aux différents milieux. Et c'est de cette façon-là que nous allons sauver notre planète ou nous allons sauver notre écosystème pour les cas de la RDC.
Mais quelles sont les conséquences sur le plan agricole, par exemple?
Alors, sur le plan agricole, vous allez voir qu'il y a des terres qui ne seront pas fertiles. Et au moment où nous parlons, et le villageois, par exemple, qui faisait leurs champs juste derrière leur maison, aujourd'hui sont en train de faire des kilomètres pour trouver des terres fertiles. Et donc la production agricole a baissé. C'est pas seulement au niveau de l'agriculture, même au niveau de l'élevage. Et donc maintenant, il faut adapter des méthodes ultra modernes qui présente aussi beaucoup de dangers sur la santé des êtres humains. Et donc les conséquences sont vraiment prévisibles. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'il faut passer maintenant par des solutions contextualisées, par des solutions pratiques, par des solutions adaptées pour pouvoir atténuer. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'annulation de la pollution, mais on peut parler de l'atténuation de la pollution, voilà, de l'atmosphère.
Alors parlons particulièrement de la ville de Kikwit, où va se tenir un forum sur le changement climatique. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore la forêt tout autour de la ville de Kikwit ou bien il n'y a plus rien aujourd'hui?
Exactement. La ville de Kikwit aujourd'hui, elle est vraiment menacée. Et puis ses environs, il y a des forêts qui étaient non loin de la ville mais qui n'existaient pas maintenant. Et il y a des érosions qui menacent la ville. Au moment où je vous parle, il y a des routes qui sont complètement coupées. Ça, ce sont des indicateurs majeurs qui prouvent que cette province, elle est exposée. Mmh. Il faut dire également que c'est la province du Kulu, c'est l'une des provinces qui alimente la ville de Kinshasa avec les bois de chauffe qu'on appelle Makala ou les charbons. Et donc, il y a une forte exploitation de la forêt dans ces milliers. Parce que les gens n'ont pas également du travail. Mmh. Mais il faut dire également qu'il n'y a pas une politique de gestion des eaux et dans ces coins. Les eaux des pluies, par exemple, qui ne sont pas canalisées, ça finit toujours par créer des érosions. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons, par les biais du gouvernement provincial du Kulu, on a initié ce premier forum environnemental sur les climats qui va se tenir à l'université de Kikwit. Ça sera du 19 au 21 de ces mois, juste pour initier la population du Kulu en général, mais plus particulièrement celle de Kikwit. Mais il faut dire que le Kulu, il n'y a pas que Kikwit qui est menacé, il y a Massimanimba, il y a le territoire d'Idiofa également. Au moment où je vous parle, il y a la route qui va vers Idiofa, elle est coupée. Il y a les territoires de Gungu qui est enclavé totalement.
Oui.
Et donc, c'est vraiment une question, une menace à outrance. Et si on n'agit pas, je crois que ça serait, c'est une province qui va disparaître dans les jours à venir.
Voilà, c'est une province qui va disparaître dans les jours à venir à cause de ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour s'adapter à tous ces effets des changements climatiques? En passant, coucou à tous les auditeurs qui nous écoutent à Kikwit, à Kazamba, Lukolela, Lukemi et Nzinda. On vous écoute.
Alors, ce qu'il faut faire dans un premier lieu, il faut que les gouvernements appuient ces populations. Ils font la mise en place d'un programme de veille des consciences qui doit se faire dans toutes les langues qui se parlent dans ces milliers. Parce qu'il faut dire que la question de la lutte contre le réchauffement climatique, entre guillemets, elle est restée beaucoup plus politique, ce qui n'est pas normal. Et pourtant, les victimes, ce ne sont même pas les politiques qui sont victimes directement. Et donc, il faut mettre en place un programme d'éveil des consciences dans les différentes langues qui se parlent dans ces milliers. Ça c'est des 1. Utiliser les artistes musiciens pour qu'ils arrivent à communiquer, à chanter. Les églises également qui ne doivent pas seulement s'arrêter au niveau de.
Surtout qu'il y a, il semble qu'il y a beaucoup d'artistes dans le.
Dans le coin, voilà.
Dans le coin.
Voilà, il faudrait pas que les gens s'arrêtent seulement à chanter sur la boisson et les églises seulement à prêcher le ciel. Mais il faut aussi l'éveil des consciences dans tous les mouvements qui sont dans le coin. Mais également, il faut inculquer un programme au niveau des écoles sur l'initiation environnementale. Et la troisième solution, il faut inculquer la culture du reboisement des espèces locales. On a constaté, et ça c'est un constat général sur toute l'étendue de la RDC, où aujourd'hui on parle que des acacias, on parle des espèces d'arbres importés. Ce qui n'est pas normal, ça va pas stabiliser l'écosystème dans notre pays.
Mmh.
Et c'est vrai que ça va aider pour la photosynthèse, mais nous sommes habitués à voir certaines espèces d'animaux. On est habitués à voir certaines espèces de chenilles, par exemple pour les cas du Kulu ou les grands bandes en général. Et donc, il faut reboiser avec des espèces d'arbres qui vont, à un moment donné, produire des chenilles, produire des fruits, ou également qui vont faire en sorte que certains animaux qui étaient en fuite puissent revenir. Aujourd'hui, on constate qu'il y a plus d'acacias, mais finalement, ces espèces qui sont importées et ne vont pas aider notre écosystème. Donc, il faut arrêter.
À la place, qu'est-ce que vous proposez à la place des acacias?
Non, mais il y a des arbres qui sont locaux. Il y a de chaque province, par exemple, en RDC, vous allez constater qu'il y a des arbres fruitiers qui sont utilisés. Il y a des arbres également qui sont coupés en désordre, mais qui sont locaux. Et ces arbres, à un moment donné, arrivent à donner les chenilles. Et ces populations, une fois elles ont ramassé ces chenilles, et elles vont vendre ça. Et donc, il faut planter des arbres qui vont, à un moment donné, avoir une finalité sur des unités génératrices de recettes ou encore des arbres fruitiers.
Mais avec donc, les acacias, on peut pas avoir des chenilles?
Non, il n'y en a pas. Ça n'existait pas.
Ça n'existe pas.
Ce n'est même pas une espèce qui est adaptée pour l'arrière-pays de la RDC parce que ça produit rien. Et vous allez constater que là où les acacias sont plantés, en dessous, il y a beaucoup du mal pour que les herbes puissent pousser correctement.
Il semble qu'en dessous, on peut bien faire des champs là où il y a des acacias.
Bon,
et ça marche bien.
Non, à un moment donné, le fait d'acacias, par exemple, ça permet pas à d'autres espèces d'arbres de pousser. Et donc, ce ne sont pas des espèces qui sont adaptées vraiment dans notre pays. Mmh. Mais vous allez voir, par exemple, pour les cas de Kwilu, la plupart des pépinières, ils ont que des acacias. Mais pourquoi ne pas reboiser avec des espèces qui sont adaptées? Parce que le plus important maintenant, il faut reconstruire non des forêts artificielles, mais des forêts naturelles. Et ça, c'est le plus grand combat que nous devons mener exactement avec l'appui du gouvernement. Mais une autre solution, c'est il faudrait que les ONG internationaux qui travaillent en RDC dans les domaines de l'environnement arrivent aussi à associer ces populations non seulement au niveau de la mise en œuvre de ces projets, mais également au niveau de la conception. On constate que la plupart des projets qui viennent ici, à un moment donné, ça prend des connotations politiques. Au lieu
parce que
ce soit des projets techniques.
Les bénéficiaires ne sont pas du tout associés.
Voilà, ils sont pas associés. Et les conséquences, vous allez voir que à Kinshasa, on vous donnera des gros chiffres, des montants colossaux. Mais quand vous arrivez sur terrain et l'inadéquation totale entre les chiffres qui ont été prononcés à la télé ou par des politiques. Oui. Mais sur le terrain, il n'y a rien.
Il n'y a rien. Bien, comment aider les communautés à s'adapter aux effets des changements climatiques? On en parle avec l'ingénieur Idriss Moufouka, coordonnateur du Forum sur les changements climatiques des Kikwit. En ligne, Kachai Kandiokanyoka, Wesley Luboya de Kananga et Marcel Didier Passoa de Luisa.
Radio Okapi aux couleurs de la 7e édition du Festival Amani du vendredi 14 au dimanche 16 février en direct du Collège Mwanga de Goma. Au menu, parole aux auditeurs en direct du site du festival le vendredi 14 à 12h05 heure de Goma. Urban Scene ce même vendredi à 15h20 et dimanche 16 à 12h10 heure de Kinshasa en direct du Festival Amani. Roundup samedi 15 de 13h à 15h heure de Kinshasa. Et enfin, Okapi Métissage, samedi 15 exceptionnellement de 15h à 17h et dimanche 16 février de 13h à 15h heure de Kinshasa. Radio Okapi en direct et au rythme du Festival Amani depuis Goma pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée.
Comment aider les communautés à s'adapter aux effets des changements climatiques? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Kachai, vous êtes à Kanioka. Bonjour.
Bonjour, monsieur José Daniel Kachama. Bonjour à l'invité.
Bonjour. Quelle est votre préoccupation par rapport à ces thématiques?
Merci beaucoup, monsieur José. Je voulais tout droit demander à l'invité par rapport à tous ces détails faits sur la radio Okapi concernant le réchauffement climatique. Monsieur José, l'invité demande tout simplement à ce que nous on puisse sensibiliser les populations locales. Mais il n'a
Kachai,
pas.
Kachai, il y a beaucoup de bruit aujourd'hui autour de vous. Qu'est-ce qui se passe là-bas, Kachai?
Bon, je me déplace encore, monsieur Jody.
Voilà, c'est mieux de. Voilà, mais c'est mieux de vous éloigner, aller à un endroit beaucoup plus calme. Bien, nous parlons aujourd'hui de comment aider les communautés à s'adapter aux effets des changements climatiques.
Ok, maintenant.
Allez-y.
Ok.
Il y a moins de bruit maintenant.
Ah, ok. L'invité a insisté sur la sensibilisation des populations locales par les musiciens, les députés et consorts. Mais il n'a pas touché à cet aspect-là du comportement des gouvernements qui donne, par exemple, le permis d'exploitation de la forêt à certains individus qui sollicitent cette exploitation-là, selon qu'il s'agisse du ministre national, du gouverneur, ainsi de suite. Monsieur Jody, qu'est-ce que nous avons constaté, par exemple? Ici, même si quelqu'un n'a pas un titre d'exploitation de la forêt, il vient avec une jupe parfumée. Et il peut faire même un cortège, venir jusqu'au village, aller commencer à faire la prospection du village, voir là où il y a de la forêt, pour peut-être faire ses activités. Et quand vous voyez ça, vous pensez peut-être que c'est une personne de haute envergure alors qu'il ne l'est pas. Et dans cette crainte-là, nous croyons que peut-être c'est l'État qui est derrière alors que ce n'est pas l'État. Manque de suivi. C'est pourquoi je voulais demander à l'invité. C'est bien ce qu'il a dit. Sensibiliser, c'est bien. Mais quand on coupe, l'État lui-même, quand il se permet de couper les arbres, peut-être qu'ils sont devant la route, il ne reboise pas. Maintenant, c'est la faute de la population ou soit de l'État lui-même qui doit d'abord commencer par respecter ces tests. Ça, c'est un. De deux, Monsieur Jody, où est-ce qu'on peut couper un arbre sans qu'il y ait un titre donnant droit à celui qui veut couper? Parce que même ici, quand quelqu'un aussi se permet de couper, il dit « Quand j'avais planté l'arbre, je n'avais pas obtenu de l'État une autorisation. Maintenant, quand je coupe, vous voulez que l'État me donne l'autorisation que j'achète pour couper mon arbre. C'est absurde. »
D'accord. Merci Kachai de Kanyoka. On va donner la parole à Wesley Luboya de Kananga. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Quelle est votre question, Wesley?
J'interviens dans cette émission comme environnementaliste parce que les études que j'ai faites au niveau universitaire, c'est l'environnement et le développement durable. Comment aider les communautés à s'adapter aux effets du changement climatique? Une très bonne question. Alors, ce qu'il faudra savoir, Jody, la Convention cadre des Nations Unies définit les changements climatiques comme des modifications directes ou indirectes qui sont attribuées aux activités que nous, les hommes, nous menons. Donc comprenez que nous sommes d'abord à la base du changement climatique parce que nous sommes mal informés, sous-informés, et comment aujourd'hui nous adapter à ces changements? Une très bonne question. Savez aujourd'hui, Jody, dans toutes nos communautés, surtout dans les milieux paysans, les activités principales qu'on a dans ces milieux, c'est l'agriculture et l'élevage. Mmh. Et aujourd'hui, parce que du côté de l'agriculture, on ne sait pas respecter les calendriers agricoles, parce qu'il y a des perturbations sur les cycles de pluie ou de la précipitation. On ne sait pas quand est-ce qu'il pleut, quand est-ce qu'il ne pleuvra pas, quand est-ce qu'on aura des sécheresses. Un changement tout à fait normal que nous subissons ces derniers temps. Mais ce qu'il faudra savoir, nous avons encore beaucoup d'espace qu'il faudra reboiser. Lorsque vous avez posé la question à notre invité concernant l'espèce d'acacia, nous savons que cette espèce est utilisée dans la protection de l'environnement. C'est certainement ça. Mais du côté agriculture, il n'y a pas une relation parce que c'est une plante épuisante du sol. Mais ce qu'il faudra savoir, c'est qu'on doit mener des études à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau climatique, au niveau pédologique, au niveau écologique, pour savoir quel est le sol qui peut héberger uniquement des acacias comme des terrains jouant le rôle de la protection de l'environnement, parce que ça fournit d'abord de l'oxygène et ça solidifie les sols. La vue de Kanan, quand je vous parle ici, proliférer partout des ravins, partout des érosions.
Wesley, est-ce qu'autour de la vue de Kananga, il y a encore un peu, il y a un peu de forêt?
C'est tout à fait un problème. Avec Avofia, accepté que je cite de M. Tikem, on a ouvert un terrain des acacias du côté Nganza, justement pour intervenir dans les changements climatiques. Du côté de l'axe allant vers Matamba, vers Kalamambouche, il y a une ONG qu'on appelle communément APRE qui intervient aussi dans ce sens-là. C'est pour vous faire voir que nous avons tous répertorié les cas du changement climatique. C'est pourquoi nous sensibilisons du jour le jour la population à jouer un rôle d'être planteur d'au moins d'un arbre pour sauvegarder notre environnement. Merci beaucoup, c'est Louboya aussi depuis la ville de Kananga.
Bien, Marcel Didier de Louisa, bonjour.
Bonjour M. Didier, bonjour M. Idriss Moufouka, qui est votre invité M. Didier.
Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au changement climatique?
Merci beaucoup M. Didier. Moi je voudrais que nous puissions aborder les questions des causes profondes de ce qui cause cela. Vous allez voir que tout cela, M. Didier, se résume en l'irresponsabilité responsabilité du gouvernement de fournir de l'énergie à la population congolaise. Ça, c'est mon point de vue. Parce que vous allez voir que quand, par exemple, ici chez moi, à Luisa, la population ne peut avoir accès à tout cela, au fait que par rapport, au charbon, monsieur Dudi. Et maintenant, par rapport à cela, vous allez voir que tout tournoie autour de cela. Si on peut d'abord revoir comment relancer, donner accès à chacun, n'est-ce pas, à l'énergie modernisée, je pense qu'on va déjà fournir un effort d'éradiquer ces phénomènes-là. La deuxième dimension, monsieur Dédi, je voudrais parler en termes de la prise de conscience de la population et de toutes les parties prenantes à l'action environnementale de notre pays. C'est-à-dire que les gouvernements...
Marcel, à la place de bois de chauffe, qu'est-ce qu'on peut proposer aux communautés? Au lieu de couper les bois, qu'est-ce qu'on peut proposer, par exemple?
Mais monsieur Dodi, c'est l'accès au courant. L'accès au courant, à ce moment-là, ça va un peu diminuer cette eau ici. C'est ce que je voudrais dire.
Mais tant qu'on n'a pas encore l'électricité dans la région, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ah oui, alors, c'est pourquoi c'est un défi que le gouvernement doit relever, monsieur Dodi. Mais c'est pourquoi je voudrais dire que même si on peut faire cela, mais qu'on inculque la culture du reboisement, si on peut inculquer la culture du reboisement, c'est beaucoup plus mieux. Que les ONG s'impliquent. Mais aussi, monsieur Dudi, il aurait fallu qu'il y ait une mesure d'accompagnement, n'est-ce pas, efficace et aussi surtout de la vulgarisation et de la sensibilisation en termes de reboisement. Mais aussi qu'on puisse punir tous les contrevenants de cette mesure de reboisement. Parce que vous allez voir, c'est comme l'un de mes prédécesseurs l'a dit, il y a quelqu'un qui vient, il s'attribue illégalement un terrain, il fait ses activités, et par la suite, là, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de reboisement, parce qu'il y a l'impunité dans ce pays.
D'accord, alors, merci.
Je voudrais un peu demander à l'invité quelque chose, monsieur Dudi, avant que je ne vous laisse. Il y a eu récemment là, la COP, je pense, la COP 25. Quels sont les... Est-ce qu'il a une idée sur ce qu'il y a qui s'est dit cette fois-ci sur la COP 25, parce que la fois dernière, la COP 21, ma mémoire, si elle est bonne, on avait eu à proposer de sorte que la RDC puisse être impliquée dans l'argent alloué à cela. Et de deux, l'expert nous conseille de nous adapter aux effets des changements climatiques où il y a des effets et des efforts d'éradiquer les changements climatiques, monsieur Dudi. Je vous remercie et bon début de la semaine également.
Bien, merci. On va donner la parole à Tchombé depuis Arou. Bonjour Tchombé.
Et bonjour Radio Capi, c'est Tchombé Pilodieu, donné à Paris Territoire.
Quelle est votre préoccupation, Tchombé?
Moi, par rapport à ce sujet, monsieur, il m'est un peu difficile de soutenir ce que vous proposez. Parce que notre environnement, vous savez très bien, ici au Congo, n'est pas protégé. Vous savez, aujourd'hui au Congo, 75% de la population consomme le bois de chauffage. Maintenant, pour parler en ça, pour le moment, en tout cas, à cette République, il n'y a pas moyen. Parce que si on dit, on doit maintenant proposer celle qui est le point de consommation de courant, vous savez, d'abord, le courant présent en RDC, il ne cherche même pas à alimenter, ne plus que la moitié de notre pays. Obligatoirement, il faudrait seulement que les gens qui travaillent au niveau de l'environnement puissent avoir une politique là pour garantir cet environnement, tel que l'autre venait de le dire, le reboisement, et qu'on puisse toujours laisser les gens libres de vraiment de se nourrir avec ces bois, parce qu'il n'y a pas autrement jusque là, parce que nos courants là, vraiment, ne parviennent pas à nous résoudre nos problèmes.
D'accord, merci beaucoup. Ingénieur Serge King, vous êtes à Kindu, bonjour.
Oui, bonjour, je dis Daniel Kachama, bonjour aussi à l'invité du jour.
On vous écoute.
Je dis, ce qui est comme sujet du jour, c'est tellement capital, d'autant plus que, vous savez, pour juste construire une maison, il fallait avoir des planches. Pour construire ou soit avoir des briques cuites, il fallait couper des arbres. Pour faire quoi que ce soit, ou des braises pour préparer la nourriture, il fallait couper les arbres. En tout cas, je vous assure, les arbres sont en tout cas des éléments très capitaux. Maintenant, comment nous pouvons les protéger? Nous pouvons les protéger en faisant des sensibilisations aux peuples autochtones. Je vous assure, ici chez nous, à Kindu, il y a des batetés là. Ils ne vivent que de cette activité-là. Maintenant, comment vous pouvez les priver de cette activité alors que c'est leur activité primordiale? Autrement, quand même on nous dit, vous coupez un arbre et puis vous plantez ça au reboisement. Il y a de ces arbres-là qui sont plantés, on plante juste jusqu'à ce que ça puisse planter, ça puisse passer au ventre d'un animal. Mais si vous voulez planter un baobab ou quoi que ce soit, vous pensez que même si vous coupez la moitié des baobabs, ça vous plantez ça, ça va germer. Mais non. Et donc, il fallait que le gouvernement central puisse sensibiliser au moins les gens, de nous apporter les acacias, de nous apporter un peu les arbres qui sont faciles à croître facilement et à grandir. ça peut permettre en sorte que les habitants ou la population puisse en bénéficier un peu de ça. Je vous assure, actuellement ici, même si vous allez au parc de la Lomami, ici à Lomami, on a interdit les gardes-parcs de Lomami ont interdit aux peuples autochtones là de tuer les animaux. Et maintenant, quand ils faisaient leur piège, ils trouvent un animal déjà soit vivant au niveau de ce piège-là, ils libèrent l'animal, ils laissent la somme d'argent là au niveau du piège, et lorsque les propriétaires du piège viennent de retrouver ça, il est aussi fâché, mais il est aussi content. Et donc, ils montrent comment est-ce que nous pouvons protéger les animaux. Et donc, nous aussi, à notre tour, nous devons savoir comment protéger quoi, les arbres. Ça nous fera énormément plaisir.
D'accord. Merci, ingénieur Serge Kingi. Merci beaucoup, ingénieur Idriss. Vous avez suivi les différentes propositions.
Merci beaucoup. On se rend compte que c'est vraiment une préoccupation majeure, cette question de comment s'adapter sur les effets du changement climatique. J'ai commencé par la question de notre ami, la préoccupation de notre ami de Kindu, qui a dit comment priver à ces gens de ne pas couper les arbres parce que c'est leur activité. Et c'est pourquoi nous parlons de beaucoup plus de l'adaptation. Il est vrai que la plupart de provinces, la plupart de ces communautés vivent de la forêt. Pour bâtir, construire une maison, c'est l'arbre qui est au centre.
Et donc, pour avoir les meubles,
voilà,
tout ça.
Voilà, c'est l'arbre. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible d'interdire à ces gens de ne pas utiliser la forêt.
Mais c'est quelles possible. Sont les activités alternatives qu'on
voilà,
peut
mais c'est, d'abord,
proposer.
C'est possible de les orienter, de les outiller, pour qu'ils prennent conscience que lorsque vous coupez un arbre, il faut également
reboiser.
D'ailleurs, la loi dit quand vous coupez un, il faut en reboiser 10. Mais c'est une loi qui est restée juste dans nos bureaux ici à Kinshasa, qui n'est même pas vulgarisée dans ces gens-là. Et donc, c'est pourquoi j'ai parlé de... Il faut inculquer la culture du reboisement. Il faut faire voir à ces communautés que l'arbre a un grand rôle à jouer. C'est pas seulement dans la construction de la maison, c'est pas seulement dans la fabrication des meubles, mais également pour notre bien-être. Donc il faut vraiment une forte sensibilisation, mais qui doit se faire avec des moyens locaux, dans des langues et locales. Il faut même pas aller avec nos méthodes trop intellectuel, à un moment donné, ça casse les rythmes.
Voilà, il faut pas aller parler français dans les villages.
Vous êtes par exemple dans les Kikongo, Kikweso, si vous êtes dans les Bandundu et tout, et ça va passer très rapidement.
Les Monokutuba.
Voilà, et la question de la préoccupation de notre ami de Luisa, qui a dit, bon, écoutez, tout ça, il a raison.
Il a dit aussi qu'il faut punir, tant qu'il n'y a pas de sanctions par rapport à...
Oui, mais le plus important, avant de punir, il faut d'abord sensibiliser, informer. Il a totalement raison. L'une des raisons de la déforestation, c'est le manque de l'électricité. Donc, tant que ces populations resteront dans les noirs sans électricité...
Il y aura toujours la pression
La pression sur la forêt. Et ça, on peut parler un bon français, on peut tout faire, on peut rédiger des lois, des cadres légaux et tout. Rien ne va changer.
Mais donc, on peut proposer des alternatives.
Exactement. Donc, les alternatives, en attendant que le gouvernement puisse donner l'électricité à ces populations, et il faut que ces populations apprennent, soient initiées à l'utilisation des énergies propres, des énergies renouvelables. Utilisation, par exemple, de l'énergie solaire, du biogaz... mais aussi, on doit former ces populations à la fabrication des foyers améliorés, parce que plus vous utilisez une petite quantité de charbon de bois pour la cuisson, plus les impacts sur la forêt seront également réduits. Donc, il faut initier ces populations à l'utilisation des énergies propres, mais également à la fabrication des foyers améliorés. Il y a notre amie Katia qui a parlé de certaines personnes qui font de trafic d'influence.
Ou qui exploitent les bois
d'une manière illégale.
On leur donne des permis d'exploitation.
Voilà, il faut dire que sur cette question, il y a également les chefs des terres qui ont une grande part de responsabilité. Donc pour un chef de groupement par exemple, il s'en fout de tout ce que vous pouvez dire, c'est la loi et tout. Il va vous dire, bon écoutez... C'est notre terre et je l'ai hérité de mes parents ou de mes grands-parents. Et donc, j'ai le plein droit de donner cette terre ou cette forêt à qui que je veux. Alors, ça, c'est une grosse erreur. Donc, il faut la sensibilisation également auprès de ces chefs de terre pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas donner la forêt à n'importe qui.
Par exemple, il semble qu'il y a un moratoire sur l'exploitation des forêts.
Exactement, mais il ne faudrait pas que ça s'arrête au niveau du Parlement. Il ne faudrait pas que ça s'arrête à Kinshasa. Il faut vraiment une bonne collaboration avec ces population. Lorsqu'on est en train de rédiger ces moratoires, c'est vrai, ces populations sont représentées par les députés, mais qui, à un moment
mais
donné,
là-bas, les
font
chefs coutumiers ignorent complètement.
Voilà, il faut les associer. Il faut, par exemple, des réunions avec ces chefs coutumiers, ces chefs des terres, les sensibiliser, parce que la population n'a pas plus de confiance sur les députés ou même sur les pouvoirs judiciaires et par rapport au chef coutumier qui est avec lui chaque matin. Les cas des Kananga, par exemple, ce qu'il faut faire, mon cher, ou ce qu'il faut savoir, mon cher ami et Katia, les responsabilités sont partagées. Donc, il y a l'État congolais qui a une grande responsabilité sur cette question. Il faut mettre les moyens, il faut sensibiliser, il faut impliquer la population dans la prise des décisions, dans la conception. Lorsque les partenaires arrivent ici, par exemple, ces partenaires s'arrêtent que dans des bureaux des politiciens. Et surtout, il s'agit de l'argent, il y a des commissions, il y a l'argent qui reste ici, mais les projets arrivent en province. Et on se rend compte que les populations locales, vous allez trouver soit c'est une sentinelle qu'on a engagée, soit c'est une femme des ménages, mais les autochtones, les originaires, le bénéficiaire du projet ne sont pas impliqués dans la mise en œuvre de ces projets. Or, la pérennisation d'un projet et doit se faire, ne peut pas être effective si les populations ne sont pas associées dans la conception et dans la mise en œuvre ou dans la gestion de ces projets. Combien de projets qui sont à l'intérieur, on constate que les originaires de ces provinces
ne sont pas du tout associés.
Nous sommes tous Congolais, je suis d'accord. Mais il faut un mécanisme de ce qu'on appelle des contacts, des proximités avec ces populations. Vous allez voir que dans tous les projets qui sont à l'intérieur du pays, vous allez constater 70%, ce sont des gens qui viennent de Kinshasa. Mais ça, c'est anormal. Ça peut pas aller. On utilise ces populations que pour faire les gardinages, pour faire, je sais pas, démarrer les groupes électrogènes.
Et il sera difficile de faire l'appropriation du projet.
Voilà, ça va pas aller. Donc, il y a un décalage à ces niveaux-là. Ah. Alors, moi, je me dis, vous venez avec les Français, par exemple, à Kananga, ou à Mweneditu, ou encore à Gungu, et très bien habillé, vous êtes très bien parfumé, mais ces gens, ils souffrent. Donc, déjà, du point de vue compréhension du projet, il va se poser un problème.
Alors, vous avez dit pour le cas des Kikuit, par exemple, il faut, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne plus planter des acacias, mais des arbres fruitiers.
Ça, c'est, voilà, d'une manière générale.
Recréer la forêt naturelle.
Il faut recréer des forêts naturelles. Les forêts artificielles ne vont pas nous aider à aller de l'avant, ne vont pas nous aider à récupérer certains espèces. Vous savez, par exemple, les cas du Kulu à l'époque, ceux qui ont fait la route de Kinshasa à Kikuit. Et la nuit, on pouvait voir des antilopes, on pouvait voir des pangolins qui traversaient la route. Mais aujourd'hui, ça n'existait pas. On pouvait voir, par exemple, des singes en train de grimper les arbres. Mais aujourd'hui, ça n'existait pas.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Et pourtant, les bons dieux, en mettant les différentes espèces d'arbres dans chaque zone, dans chaque coin, c'est vraiment pour un écosystème équilibré. Il y a certaines maladies et qui ne pouvaient pas attaquer les populations tout simplement parce que ces populations étaient à côté de certaines espèces d'arbres. Ben aujourd'hui on est inondé par des acacias, je suis pas contre cette culture, mais je pense que la meilleure des choses, il faut partir par des espèces locales, il faut partir par le reboisement des arbres fruitiers, il faut initier les écoliers parce que nous on est assez grands, à un moment donné ça va pas passer, mais il faut commencer maintenant à éduquer les enfants.
Donc
qui sont
aujourd'hui autour de Kikuit il n'y a plus que des savanes,
il n'y a plus de savanes. Et je vais même donner un petit exemple qui peut paraître banal, mais si aujourd'hui les gens peuvent arriver à se dire, par exemple, bon voilà, à chaque fois que ma femme accouche un enfant, on doit planter un arbre. Et les gens, ils sont habitués à faire beaucoup d'enfants. Donc, quand vous aurez 10 enfants, vous aurez 10 arbres fruitiers. Et votre enfant, quand il va se marier, dès qu'il a son premier fils, quand il a des jumeaux, il va reboiser. Ainsi de suite, nous pouvons reconstituer un écosystème équilibré, même si c'est pas nous qui allons en bénéficier, mais les générations futures pourront vivre dans un écosystème.
Donc il n'y a plus que la savane stabilisée. Et Kikuit est menacée par des érosions.
La ville est menacée par des
érosions.
J'aurais
bien à vous tout à l'heure le temps d'accueillir le professeur Massens Bamoussa, recteur de l'université de Kikuit. Professeur, bonjour.
Bonjour, monsieur Jobani.
Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette thématique? Les adaptations, comment s'adapter aux effets du changement climatique?
Écoutez, c'est un thème d'actualité, mais comme a dit mon prédécesseur là, dans l'influence de la ville de Kikuit, 30 kilomètres à peu près, vous n'avez plus de forêt. Or, moi, j'ai vécu dans cette ville. La ville était entourée de forêts naturelles. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a que des savanes anthropiques pour le moment. Mmh. Et ça pose beaucoup de problèmes. Problèmes d'érosion qu'on a tout à l'heure là énuméré. Problèmes de climat, changement climatique. Et problèmes surtout sur le plan alimentaire. Parce que les mamans qui quittent, se nourrissent pour l'Interland. Et elles doivent faire de marches forcées. Elles quittent à 4h du matin. Quand elle arrive là où elle doit en principe faire son champ, elle est déjà fatiguée. Elle ne peut faire que 30 minutes, 40 minutes, elle repense déjà à revenir. C'est un problème très important.
Quelles sont les solutions qu'on peut envisager par rapport à tout cela?
Les solutions sont trop simples. Je prends l'exemple, je ne sais pas si ça se passe encore, au Gabon. Il y a un arbre qu'on appelle Okoumé. Cet arbre avait été exploité en outrance. Mais maintenant, le gouvernement a pris des mesures pour que chaque famille qui produit un enfant, cet enfant-là, avant qu'il n'arrive à maturité, les parents sont obligés de planter un arbre pour lui. Ils vont prendre soin de cet arbre-là. Et juste quand il arrivera en maturité, lui, on lui donne maintenant son arbre pour qu'il puisse l'entretenir. Ainsi de suite. Je pense que c'est déjà une solution. La deuxième solution, c'est que il faut reboiser les espaces anthropisés. Il y a des essences naturelles qui croissent rapidement. Moi qui vous parle, j'ai amené chez moi, dans ma ferme, plus de 30 pieds d'imba. Un arbre qui se trouve au niveau du Haut, en fait, le Grand Haut-Congo, et au niveau de Congo central.
Il s'agit de quel arbre, il s'agit de quel arbre, professeur?
Le limba,
d'accord.
La croissance rapide.
Oui.
On l'appelle Terminalia superba. Donc, nous avons beaucoup d'essences naturelles. Au lieu qu'on puisse prendre des essences exotiques, nous avons des essences naturelles. On peut cultiver, en principe, on peut le reboiser, faire le reboisement à outrance. Il faut obliger. C'est pas un problème. Donc, nous avons le gouvernement.
Professeur Massens, alors l'université est là aussi pour répondre aux problèmes de la société, résoudre les problèmes qui se posent dans la société. Qu'est-ce que l'université de Kikwit, par exemple, a déjà fait par rapport à tous ces...
L'université a 60 hectares. Nous avons déjà commencé le reboisement avec 7 hectares. Si vous avez la chance de venir, on vous amènera sur le terrain. C'est un exemple. Parce qu'il faut éduquer les gens. Pour le moment, la masse n'a pas encore été éduquée et elle ne comprend pas que c'est une nécessité pour reboiser.
D'accord, merci.
Nous continuons le reboisement et de former les gens. À cet effet, c'est pourquoi le 19, nous avons essayé d'accueillir les gens pour parler de l'environnement et du changement climatique. C'est à ce niveau-là que nous sommes.
Bien, merci professeur Massens. On va donner la parole à Jonas de Kananga et John Kalunga de Lubumbashi. Jonas, bonjour.
Bonjour monsieur Jody, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'adapter aux effets du changement climatique? À Kananga par exemple, avez-vous des exemples de ce qui est en train d'être fait?
Bon, pas du tout, mais j'ai une préoccupation. Il y a un auditeur de, je pense, de Luisa qui a dit que c'est parce que le gouvernement ne fournit pas du courant que nous sommes en train de vivre les changements climatiques. Bon, ben, moi, je vais poser la question sur ce qu'il a dit là. Il y a des gens qui ne vivent que de bois, qu'ils coupent pour fabriquer la braise, qu'ils viennent revendre sur la ville, et puis ils font vivre leur famille. Mais admettons que l'État, bon, mais je ne suis pas prophète des malheurs, mais je sais que notre gouvernement n'est pas capable de fournir du courant électrique jusque dans le plus bas, dans les villages les plus reculés. Mm-hmm. Mais admettons qu'il y ait du courant jusqu'à ce niveau-là. Mais ces gens-là n'ont comme emploi que le bois de chauffage qu'ils viennent revendre pour avoir de l'argent. Comment allez-vous les aider pour qu'ils cessent de vendre parce qu'ils auront du courant, mais faites-nous en plus que les bois de chauffage. Comment peut-on les aider pour leur survie? Bon, et puis deuxième préoccupation, là je suis en train de rejoindre maintenant ceux qui pensent que lorsqu'on vient décimer les arbres, ce n'est pas bon et quoi ça. Mais moi, c'est dans le sens des animaux. Il y a des gens dans nos villages ici qui appliquent des produits à base toxique. Ils appliquent ça par exemple sur un fruit. Et ils vont tendre des pièges avec pour comme un appât. Donc comme un appât pour attraper les gibiers. Mais par exemple, si c'est pour les lièvres, vous allez vous rendre compte qu'ils vont attraper en une fois beaucoup de lièvres. Et des pratiques comme ça sont en train de détruire, de décimer les animaux dans la forêt, ce qui n'est pas aussi bon. Comment alors on peut aider ce genre de personnes pour changer leur mentalité?
D'accord, merci, merci bien. On va donner la parole à John Kalunga de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi.
Quelle est votre préoccupation?
Ce sujet est vraiment très important. Mais moi, s'il faut parler de ce sujet, pour moi, c'était né de m'inviter des gens qui coordonnent la SNEL. C'est comme ça, on devait commencer à gérer notre situation ici dans des centres-villes, parce que le courant est là. Maintenant, j'avais fait un stage de professionnalisation à la SNEL. J'ai posé toutes les questions, mais on n'avait pas montré les projets de société, l'argent que nous payons. Les mêmes barrages, depuis qu'on avait installé des années et des années. Les gens, les villes se sont déjà grandis et tout, mais il n'y a aucun plan. Maintenant, s'il faut parler de ça, nos villageois ne savent pas ce que nous sommes en train de parler ici dans des grands centres de changement climatique. Là, au village, on sait déjà, on coupe les bois, la forêt qui est derrière la maison, on entretenait après les champs, ça devient la savane, on va poursuivre la forêt, chasser ça. Moi, j'étais à Congo.
D'accord, je comprends. Donc, si la SNEL fournit de l'électricité à tout le monde, il y aura moins de pression sur les forêts. Et puis voilà, on a compris, merci. On va donner la parole à Chico Dembandaka. Bonjour.
Oui, monsieur Jody, je salue aussi l'invité qui est toujours sur le plateau.
Quelle est votre question, Chico?
Bon, Jody, j'ai suivi l'invité. Bon, je ne sais pas, au moment qu'il expliquait la première vague, je n'étais pas en ligne. Hein. Mais néanmoins, au début, lorsqu'il parlait des conséquences du changement climatique, sur le plan agricole. Bon, moi, je ne sais pas. Parce que le problème est que de savoir ou de chercher le moyen d'adapter les calendriers agricoles par rapport au changement climatique. Est-ce que nécessairement, si lorsque nous avons un changement climatique, cela a un problème sur les rendements agricoles? Parce que moi, je vois que ce n'est qu'un problème qu'on puisse encadrer les paysans, de laisser les anciennes techniques agricoles. Parce que lorsque un paysan sait qu'il va défricher un champ de 2 hectares, ou soit 1 hectare, il sait que non, avec un champ de 1 hectare, je peux avoir peut-être autant de kilos de maïs. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est que des techniques. Le fait de l'encadrer, il aura au moins l'opportunité de produire beaucoup. Il peut défricher une petite surface et de produire beaucoup. Mmh. Je sais, il faut voir nos projets agricoles sur le plan au milieu rural.
Oui.
Ce projet sensibilise au moins la communauté sur les techniques agricoles. Non. Parce que lorsque vous avez fait des études que la banane, on ne peut pas planter la banane à tel mois, il faut de tel mois.
Oui.
Et si c'est vrai, si on plante à tel mois, est-ce qu'on aura un rendement? La banane va produire des régimes vraiment, des bons régimes.
D'accord. Chico, d'après vous, c'est beaucoup plus question de sensibiliser les agriculteurs sur les nouvelles techniques agricoles.
C'est ça.
Oui. D'accord. On a compris votre préoccupation. Oui. Simon Nkalukanda, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Ouais, bonjour, jeudi Daniel Kachama. Bonjour également à notre invité. Hein.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Simon?
Ouais, je voudrais aussi réagir hein, parce que le sujet est très important. Et l'invité nous a dit ici qu'il faut recréer les forêts naturelles. Moi, je pense que ce n'est pas une solution, jeudi, parce que vous imaginez, il y a d'autres arbres hein, qui ont été coupés, mais dont on ne saura même plus retrouver dans nulle part ailleurs. Mais les reboiser ou les déboiser, on va les retrouver où? Parce que moi, la seule solution serait, par exemple, aujourd'hui, j'étais un jour dans mon village naturel,
j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup d'espèces de chenilles qui ont disparu. À des fois, les autochtones commencent à accuser la sorcellerie et qu'on se... Et pourtant, c'est un problème de déboisement. On est en train de couper les arbres, on ne sait pas les replanter. Mmh. Mais moi, la seule solution, je pense que il serait mieux de définir, par exemple, les espèces de forêts qu'on ne peut pas couper. Parce que vous savez, au village aujourd'hui, plus la population accroît, plus les gens sont censés cultiver pour se nourrir. Moi, je pense que la solution serait de définir, par exemple, tel espace, on ne doit pas cultiver parce qu'il y a des espèces d'arbres où ça nous produit des chenilles et qu'on sort. On doit seulement cultiver là-bas. Sinon, si on laisse seulement les gens couper ou cultiver en désordre comme ça, ça ne sera pas une meilleure solution. Moi, je pense qu'on doit vraiment définir les espaces qu'on doit cultiver et d'autres espaces qu'on ne doit pas cultiver. Et là, les populations vont pouvoir s'adapter.
Merci, voilà Simon. D'accord. Merci, Simon de Kananga. Ingénieur Idriss, vous avez la parole.
Oui, je commence par la préoccupation de Simon. Et Simon, vous avez raison, mais je lui donne un exemple d'une espèce de chenille qu'on appelle chez lui, ça existe à Kananga, Mansamba. Simon connaît ça très bien.
Mansamba.
Mansamba, voilà. Et c'est une espèce de chenille qu'on trouve pas partout ailleurs. Mais vous allez voir que l'arbre qui fait en sorte que cette espèce de chenille de Mansamba puisse exister, c'est l'arbre le plus abattu pour Okasai, le Dékasai, et Okasai pour l'exploitation de charbon, de bois. Mmh. Et ça, c'est vraiment une menace. On est en train de menacer. Et cette espèce est en voie de disparition. Aujourd'hui, quand vous allez, par exemple, à Chikapa, on pouvait retrouver cet arbre à 10 kilomètres, mais maintenant, il faut faire des milliers de kilomètres. Et c'est la raison pour laquelle nous disons il faut sensibiliser ces populations. Donc, l'interdiction, c'est pas vraiment une solution. Parce que ces gens, il faut se dire, il y a aussi un problème de chômage. Ces gens, ils ont trouvé que voilà l'exploitation de la forêt et c'est devenu comme un métier qui leur permet quand même de survivre. Mmh. Et donc c'est le manque également du travail. On n'a pas du boulot et
il faut leur proposer des alternatives.
Là, c'est là où j'ai dit que la responsabilité du gouvernement, il faut donner du travail. Il faut donner du travail à ces gens. Il faut sensibiliser. Mais en attendant que le travail arrive, il faut faire voir à ces gens que voilà, quand vous coupez cet arbre qui vous donne les Mansamba, généralement c'est entre les mois de juillet et les mois d'août qu'on a, et c'est en abondance. Mmh. Et ces chenilles également, ça se vend ici à Kinshasa. Et donc, c'est la sensibilisation est très importante.
Oui, Chico Dembandaka dit aujourd'hui, comme effet de changement climatique, les calendriers agricoles est perturbé. Il y a des problèmes de rendement. Lui, il dit pour s'adapter, il faut
changer les techniques.
Les techniques, voilà.
Et il voulait savoir
apprendre aux agriculteurs nouvelles techniques.
Chico dit, le réchauffement climatique n'impacte pas les secteurs agricoles. Mais non, mon cher ami. Je suis d'accord avec toi, il faudrait apprendre aux agriculteurs d'autres méthodes, mais on est dans un concept environnemental qui est affecté par ces fléaux. Et donc, les changements climatiques a un impact sur la production agricole. Vous allez voir, par exemple, à l'époque, à partir du 15 mai, on pouvait parler de l'équinoxe, donc on pouvait commencer la saison sèche. Mais aujourd'hui, il y a la saison des pluies qui va même jusqu'au mois de juillet. Et ça perturbe directement les secteurs agricoles. Donc, les changements climatiques a un impact direct sur la production agricole. Je suis d'accord avec toi. Il faut passer par des méthodes. Il faut changer également des méthodes.
Les techniques agricoles.
Oui. Et la question de notre ami de Kananga également qui a dit, mais comment aider ces gens qui sont en train d'utiliser des produits toxiques? Ils mettent ça dans un fruit pour attraper les gibiers. Ça aussi, c'est une menace contre la nature. Donc, vous allez...
Tous ceux qui posent des pièges pour...
Voilà, par-ci, par-là. C'est là où j'ai dit qu'il faudrait que l'État congolais collabore avec les chefs des terres, collabore avec ces chefs de village, ces chefs de groupements, ces chefs de clans. Vous allez, par exemple, chez Bakwanyambi, là-bas, dans les Kasai. Ils ont leur mode de vie. Donc, vous n'allez pas, et si vous ne les associez pas, ça serait difficile de leur dire, écoutez, quand vous tuez des gibiers, c'est une menace, ainsi de suite. Parce que pour eux, c'est leur moyen de vivre. Il y a même des gens qui sont, et ils ont beaucoup de femmes, tout simplement parce que c'est chaque semaine qu'ils tuent des gibiers. Il a beaucoup de femmes, c'est chaque semaine parce qu'il attrape beaucoup de poissons. Et on attrape même des poissons qui sont encore trop jeunes. Donc on n'a pas la culture de se dire, bon voilà, cet animal est encore trop jeune, je peux le remettre et en brousse, ou encore ces poissons, je trouve qu'il est encore trop jeune, je vais le remettre dans l'eau. Donc il faut, c'est pourquoi j'ai parlé de la sensibilisation, du civisme environnemental. Il faut que les gens soient éduqués. Alors avec des adultes, ça serait un peu compliqué parce qu'ils sont déjà fauchés dans cette mer. Donc il faut initier les élèves au niveau de l'école primaire. Donc nous devons commencer à initier les enfants pour que demain ils vont quand même ils vont pas vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Oui, professeur Massin, ça a parlé de l'arbre le okoumé. Oui. Hein, cette espèce d'arbre qui est planté pour chaque enfant, chaque naissance dans la famille, on plante un arbre. Et puis il a parlé de l'élimbra, l'arbre à croissance rapide. Oui. Et déjà l'université de Kikuta a déjà 60 hectares et ils sont en train de faire déjà quelque chose là-bas.
Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que le forum qui va se tenir à Kikuta sur le climat est fait en collaboration avec l'université de Kikuta. Il y a le gouvernement provincial du Kwilu, il y a l'université de Kikuta et puis l'association panafricaine de professionnels de métiers en énergie renouvelable. Donc on a choisi l'UNIKIK parce que on s'est rendu compte que cette université est en train de se battre et pour lutter contre les réchauffements climatiques. Cette université est en train de former des gens, mais en même temps de sensibiliser, parce qu'aujourd'hui l'aspect sensibilisation vient à en avant-plan. Mais il faudrait que ça devienne une culture. Je dis toujours aux gens, c'est anormal, quelqu'un qui mange un avocat, il dit bon voilà c'est bon, mais il jette les noyaux. Ça c'est trop méchant. Donc on n'a pas cette culture. Il faudrait que les
on ne devait pas jeter les noyaux.
On peut pas jeter. Quand c'est bon, il faut replanter. Et ça doit devenir un mode de vie pour nous. Donc il faudrait que le reboisement devienne une culture pour nous. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout le monde est tourné vers l'argent. Et les politiques également qui n'aident pas ces populations, ils vont venir en 2023 pour avoir des voix. Mais ils sont là, on sent rien. Il n'y a aucune loi par rapport à ça.
Une politique environnementale, une politique de reboisement.
Mais la question que nous posons, par exemple, à nos députés qui sont au Parlement, on parle que de la politique. Il n'y a pas de loi et il n'y a pas de propositions. Même quand ils sont en vacances parlementaires, c'est seulement pour donner du riz. Mais est-ce qu'il y a des députés qui sont en train d'échanger avec leur sujet sur la question environnementale? Je pense pas qu'ils sont nombreux. Mais ils vont revenir encore. Donc c'est pourquoi je vous ai dit que la responsabilité, les responsabilités sont partagées. Il y a l'État congolais, il y a également le représentant de la population au sein de différentes assemblées, mais également la population qui est au centre, qui doit se prendre en charge. Mmh. C'est vraiment important.
Bien, ingénieur Idriss Moufouka, coordonnateur du Forum sur les changements climatiques de Kikuta. Merci et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.